France Inter, le 18-20.
Allez, on va pas se laisser aller à la tristesse. Il avait 94 ans, Aznavour, un bel âge pour mourir, comme ils disent. Et combien de générations traversées hier encore? Il était sur scène, formidable, comme d'hab, avec au moins deux guitares derrière lui et bien plus. Chacun de ses succès, au fond, pour nous tous, c'est une petite Madeleine de Proust, un plaisir démodé, mais que revendique aujourd'hui même la nouvelle génération d'artistes, disons, néo-bohèmes, à qui il racontait volontiers combien lui, dans son coin, tout seul, n'a pas renoncé, même quand personne n'en voulait. Il faut savoir s'accrocher, expliquait-il à tous, les chanteurs, les comédiens, tous ceux qui se voyaient déjà sans trop voir venir grand-chose encore. Bref, et vous, qui probablement n'avez rien oublié, emmenez-moi ce soir au téléphone, sonne dans vos souvenirs de Charles Aznavour. Si vous avez repéré les 13 chansons planquées dans ce lancement, c'est que vous êtes dans le cœur de cible comme nous. 13, il paraît que ça porte malheur, c'est parce que j'ai pas réussi à replacer trousse-chemise. Bam, c'est fait, 14.
Fabienne Saint-Ès. Le téléphone sonne.
Et Valérie, bonsoir. Soyez la bienvenue, Valérie. On vous écoute.
Merci et merci de prendre mon témoignage. Voilà, ma chanson, on va dire souvenir, c'est la bohème, parce que c'est toute une période de ma vie d'étudiante à Paris, il y a maintenant peut-être plus de 20 ans. Le 13e arrondissement, la Butte aux Cailles, rue des 5 Diamants, il y avait un petit resto très réputé pour les étudiants parce que c'était un petit resto pas cher où on mangeait des formules patates Cantal ou patates jambon du pays.
J'adore les souvenirs.
Ouais, et c'était des grandes tables en bois avec des nappes Vichy. C'était vraiment comme une petite guinguette dans Paris. Et le restaurateur, à chaque fois, systématiquement, sur les peut-être 5 ou 6 années où j'y suis allée, avec donc toute la bande de copains, couper le son à un moment donné en fin de soirée, éteignait toutes les lumières et il nous mettait la bohème à fond et c'était des grands moments de partage, tout le monde chantait ensemble, voilà, c'est un souvenir pour moi de Paris, de ce moment de vie et d'Aznavour, voilà, qui va nous manquer
tout autant que les patates Cantal.
Je suis vous raconter ça. Pardon.
Tout autant que les patates Cantal, Valérie,
oui,
apparemment.
Oui, aussi.
Mais il en existe encore d'ailleurs à la Butte aux Cailles, des petits restos comme celui-là. Merci beaucoup pour ce joli souvenir qui est une jolie entrée en matière pour ce téléphone sonne jusqu'à 20h et pour discuter, partager nos souvenirs ensemble. Didier Varro est là aussi, bien sûr. Bonsoir Didier.
Bonsoir Fabienne.
Et Mathieu Culeron du service culture de France Inter. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir.
Tout le monde, Didier, a des souvenirs comme ceux de Valérie au fond.
Mais oui, parce que Aznavour chantait juste. Il avait le bon mot, et en 2 minutes 30 ou 3 minutes, il écrivait son quotidien, sa relation aux femmes, sa vision du métier, à chaque fois avec une précision et une justesse qui faisait que on s'y retrouvait, on avait la sensation qu'il était dans la justesse toujours. Et puis, je pense que les Français ont senti confusément qu'il était ce symbole de l'entêtement de celui qui doit faire face au vent mauvais et qui finit par réussir à conquérir le monde.
Et au fond, il en parlait souvent, en fait, Didier, de ses débuts qui ont été difficiles. On a l'impression qu'il gardait, j'ai pas envie de dire une rancœur parce que c'est pas vrai, mais un vrai souvenir, quelque chose de pas forcément digéré, en fait, non?
Bah, il faut dire qu'il avait des raisons d'être dans la mauvaise digestion, ouais, si je puis dire, puisque effectivement, il a quand même eu du mal à faire ses armes dans ce métier, que ce soit dans le disque ou sur scène. Il a essayé plusieurs formules avant de réussir. Aznavour, finalement, on connaît des chansons avant les années 60, mais c'est 1960, Je me voyais déjà, où il joue sa vie, finalement, sur un récital à l'Alhambra, dans une chanson qu'il inscrit à la fin de son répertoire, où finalement il se dit, si ce jour-là, les gens, le public parisien et ceux qui font l'opinion ne reconnaissent pas mon talent, eh bien j'arrêterai, je ferai autre chose.
Et Mathieu Culeron, je repense au souvenir, pardon Mathieu, de Valérie avec la bohème, à cette chanson. Quel âge vous avez, Mathieu?
46 ans.
46 ans, moi à peine plus. Didier, on a tous une chanson fétiche d'Aznavour. On est tous capables non seulement de fredonner quelque chose, mais même de souvenir des paroles réellement, en fait.
Oui, alors moi, dans mon cas, c'est la bohème, c'est un peu comme notre auditrice, mais c'est vrai qu'elle parle, elle, c'est marrant parce qu'elle habitait la Butte aux Cailles, et lui parlait dans cette chanson de la Butte Montmartre, un endroit très chargé d'émotions. émotion pour lui parce que c'est là où il a habité avec ses parents pendant la guerre. Ses parents cachaient des résistants, des juifs. Et puis il a beaucoup, voilà, circulé dans ce quartier-là. Mais je voulais juste revenir sur l'idée qu'on avait à l'époque de Charles Aznavour, parce que il s'est fait massacrer par la critique. C'est pas, on n'a pas été dur, on l'a massacré. On parlait de la petite calasmité, on parlait de l'aphonie des grandeurs ou de l'enrhumé vers l'or. Enfin, c'était, il s'est fait massacrer totalement. Oui. Il n'a jamais digéré ça. Moi, je l'ai rencontré l'année dernière, juste avant la mort de Johnny Hallyday. Il avait toujours pas digéré ça.
Il y avait cette voix aussi qui était totalement atypique, et puis ce physique aussi qui fera que Edith Piaf lui dira, par exemple, si tu veux réussir, mon petit gars, il va falloir que tu te fasses refaire le nez. Donc, ce sont des choses qu'il a portées en lui. Et ce qui a été bien, finalement, avec Aznavour, c'est que cette expérience-là lui a servi pour être l'un des artistes qui transmet. Quand on parle de Aznavour, on est obligé de parler de transmission. Et il a fait ce travail avec les artistes, avec les producteurs, mais aussi avec les stars qu'il a pu côtoyer.
Mais d'ailleurs, tout le monde lui disait « t'as pas de voix, ta voix c'est rien », mais en fait c'est très difficile à chanter, Aznavour, Mathieu Culeron, ça monte beaucoup plus haut qu'on imagine, en fait.
Alors lui disait qu'il avait une possibilité de monter sur 3 octaves, donc ce qui était énorme, parce que c'est pratiquement justement une chanson classique, un chanteur classique est capable de faire ça. Mais c'est vrai que je pense qu'on n'aimait pas trop à l'époque sa voix nasillarde, et puis ça s'est arrangé avec le temps, parce qu'il a réussi justement à envoyer cette puissance peut-être qu'il n'avait pas au tout début, c'est-à-dire à la fin des années 40, début des années 50. Plus ça allait, plus il avait une puissance assez incroyable en montant dans les aigus, et cette puissance-là, elle a été reconnue par la suite.
Et devenir un vrai chanteur de jazz, en fait, effectivement, c'est ce que disait, j'écoutais André Manoukian tout à l'heure chez Charline, et effectivement, il y a de ça, il envoie du bois, quoi.
Il y a du groove chez Aznavour.
Esther, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue Esther dans le Téléphone Sonne, c'est quoi votre souvenir Esther?
Oh, écoutez, d'abord, merci pour toutes vos émissions, quel que soit l'endroit dans le monde où je me trouve. C'est toujours un bonheur de vous écouter.
Bon, bah, formidable. Vous n'avez pas de questions, Esther.
Je n'ai pas de questions, juste une observation. Allez-y. Et un souvenir, et absolument pas un souvenir de tristesse. En 1982, je suis née en 1963, j'avais 20 ans. Je ne me retrouvais pas en France. J'avais un bac. Le Parcoursup n'existait pas et je ne me retrouvais pas en France. J'ai pris un billet d'avion pour fuir tout un tas de choses, ma famille, la France, etc. Et je suis partie dans un pays étranger où même la langue était différente. L'adaptation est difficile et puis quelques mois ont passé. Un soir, je me suis assise seule dans un café. Et à l'époque en France, cela n'existait pas de mettre des haut-parleurs avec des micros pour de la musique. Et j'ai entendu la voix de Charles Aznavour dans une langue étrangère chanter la bohème, avec des paroles que je comprenais à peine à décrypter. Et ce jour-là, j'ai compris, un, que la France était et resterait mon pays. Et j'ai compris quel grand homme il était.
Et vous êtes rentrée, Esther, ou pas?
Bien entendu, je suis rentrée peu de temps après, 2-3 ans après. Je suis devenue avocate, j'ai fait des enfants, etc. Et je les pousse à tenir malgré les difficultés qui sont les nôtres aujourd'hui en France. Ce n'est pas en haut de l'affiche qui compte, c'est tenir.
Et voilà, et j'imagine que vous les avez initiés même aux chansons de Charles Aznavour.
C'est très très juste, parce que Aznavour, dans une de ses multiples autobiographies, dit ça. Il dit c'est tenir, l'obsession c'est tenir. Et c'est un travail de tous les instants, même ces dernières années où les chansons n'avaient plus le même succès. Il continuait par la scène à illustrer cette philosophie de vie. Tenir, quoi qu'il en soit.
C'est pour ça qu'il n'arrivait pas à s'arrêter, en fait, qu'il n'avait pas envie de s'arrêter, finalement, Charles Aznavour, ou pas?
Oui, je pense qu'il y avait, de ça, voilà.
Mais Charles Aznavour, c'était un guerrier, ça l'a été depuis le tout début, c'est-à-dire que même enfant, lui, il avait des velléités de devenir artiste, mais il savait pas trop à l'époque ce qu'il voulait devenir. C'est pas, c'était chanteur, acteur, acteur de théâtre. À 9 ans, il est sur scène, il fait des imitations, il fait des acrobaties, et puis plus tard, il dansera comme un soldat russe. Enfin, il était capable de tout faire. Tout était possible pour Charles Aznavour. Il voulait un peu beaucoup de notoriété, on va dire. Et il avait cette vision, aussi une certaine modernité, je pense qu'on y reviendra.
Alors, on y reviendra, j'espère. Et vous l'avez évoqué d'un mot, je voudrais remercier Esther, au passage, que je n'ai pas remercié tout à l'heure pour ce joli témoignage. Vous l'avez évoqué d'un mot, Mathieu, il y a l'acteur aussi, qui était Charles Aznavour. Moi, j'ai un peu l'impression qu'on l'a presque oublié, l'acteur Charles Aznavour. Peut-être même que c'était un garçon sous-employé. Il était très très bon, il était super acteur, Charles Aznavour.
Oui,
on l'a un peu oublié, en fait.
Parce que précisément, il ne surjouait pas. Souvent, les chanteurs qui sont employés au cinéma sont un peu dans le surjeu ou dans le rôle qui est leur rôle favori, c'est-à-dire d'interpréter un chanteur qui joue. Lui, c'est vraiment quelqu'un qui a eu une matière première à travers des scénarii très très fortes, et on connaît évidemment sa relation très forte avec Aznavour, avec Truffaut, pardon, ouais. et du coup ça a donné non seulement une gueule, mais des contre-emplois à Aznavour, comédien.
Il y a eu du Cocteau, il y a eu du Truffaut, Mathieu, il y a eu du vrai, vrai beau monde.
Oui, puis Volker Schlöndorff dans Le Tambour. Enfin, mais le cinéma, ça a été sa passion depuis toujours. Avec sa sœur, il passait des journées entières, des semaines presque entières à aller voir Guitry, Capra, Chaplin, en boucle. C'est-à-dire qu'il faisait la journée totale, il voyait parfois cinq fois le même film.
Pensez qu'il y a une pointe de regret de l'acteur qu'il aurait pu être, ou pas du tout, en fait?
Non, je pense pas. Je pense que.
Il a une très belle filmographie,
Il a une très belle filmographie avec des réalisateurs assez importants, en tout cas des réalisateurs dont on parle encore aujourd'hui. Et puis sa carrière en tant que chanteur a été tellement immense que c'est difficile de comparer les deux.
Ce que disait Mathieu Culeron est très juste. Dès le début, dès son plus jeune âge, il hésite entre plusieurs disciplines artistiques. Et lorsque même il va rencontrer le succès, il va avoir à cœur d'être comédien au cinéma. Il voulait aussi imaginer des comédies musicales ou des grands shows à l'américaine qui pouvaient ressembler à des performances ou des comédies musicales. Il faut jamais oublier quand même que La Bohème, qui est l'un des succès les plus vertigineux.
C'est fou parce qu'on parle que de La Bohème depuis tout à l'heure. Il y en a eu tellement d'autres.
Par exemple,
mais en même temps,
par exemple, c'est une chanson qu'il a écrite pour Guettari, pour une comédie musicale qui se déroulait au Châtelet et dont le livret était un peu faible, selon le directeur du Châtelet, et qui a appelé Aznavour en lui disant « Fais-moi une chanson qui muscle le deuxième acte de cette comédie musicale, et ce sera La Bohème. » Et puis il avait cette envie aussi de faire une école de comédie musicale. Il avait envie de transmettre aussi, ça je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est extrêmement important.
Allez, encore des souvenirs au 01 45 24 7000, et ce sont ceux d'MC Solar. Bonsoir.
Bonsoir.
Et merci de nous rejoindre dans le téléphone sonne, MC Solar. Votre souvenir d'Aznavour, vous, c'est quoi? Et votre chanson, c'est laquelle?
Mon souvenir d'Aznavour, c'est ensuite d'abord une rencontre un peu par hasard. Je ne savais pas qui j'allais rencontrer. Je rencontre ce monsieur, donc j'étais décomposé quand je suis rentré chez moi, parce que je l'ai rencontré une vingtaine d'années, mais je ne savais pas que c'était lui que j'allais croiser. Et il avait un regard perçant, c'est un petit homme mais qui est un géant, et puis on a toute l'histoire qu'il a derrière, donc on est vraiment petit. La chanson, moi, qui m'a marqué, il y a celle qui se... Moi, c'est mon ami Mon Judas, qui est une chanson qui raconte un peu les mœurs, les gens, les flatteurs, et voilà, il y a plein d'épisodes qui racontent, et puis il termine par cette phrase choc qui est « Fais ton métier, crucifie-moi ». Et je l'ai vu à l'Olympia, l'interpréter en regardant de face comme s'il vivait la chose, ça a été poignant. L'interprétation en plus.
Et alors en plus, c'est pas l'une des plus connues, MC Solar, forcément, Mon ami, Mon Judas de Charles Aznavour, et du coup c'est bien que vous puissiez citer celle-là. On a un peu l'impression qu'on fait le tour trop vite, en fait, de chansons qu'on est tous capables de fredonner, mais celle-ci a probablement une place à part. Vous n'avez jamais chanté avec lui, même pas au Resto du Cœur, par exemple, à un moment sur scène ou des choses comme ça?
Non, je l'ai vu quelques fois pour les événements qu'il a pu faire pour l'Arménie, mais non, je n'ai jamais chanté avec lui. Par contre, ceux qui l'ont côtoyé il y a quelques mois, je parlais avec la jeune Amel Bent qui me racontait tout l'âme. Ça pétillait ses yeux des rencontres qu'elle a eues avec lui. Et puis elle, c'est en chanson, donc Vraiment, je crois qu'il a perturbé, il a troublé son eau. Elle était différente et elle nous a parlé pendant 50 minutes de sa dernière rencontre avec Charles.
Et c'est vrai que c'est un peu ce que disait Didier Varro tout à l'heure, M. Solar. Il aimait transmettre, il aimait raconter son métier à Aznavour, raconter y compris la galère avant et ce qui se passait derrière. Il n'était pas avare ni de conseils, ni de sa propre vie, en fait.
Pas avare du tout, et puis au fait, il avait envie d'influencer un peu la société. Moi, quand je l'ai vu faire quelques apparitions médiatiques de temps en temps pour parler de, il allait dans quelques banlieues, disait qu'il fallait, on dirait que son expérience de ses débuts où il se sentait un peu rejeté, il voulait pas qu'arrive la même chose à des gens aujourd'hui. Je l'ai vu quelques fois sortir de son rôle de chanteur extraordinaire pour témoigner sur ses souhaits pour la société actuelle.
Et merci beaucoup, M.C. Solar. Merci pour ce joli témoignage. Merci de votre passage dans le téléphone sonne. On va rester au standard. Je voudrais qu'on y retrouve Dominique. Bonsoir, Dominique.
Oui, bonsoir France Inter et bonsoir à vos invités. Oui, moi je voudrais parler d'autre chose qui m'a interpellé chez M. Aznavour. C'est sa mémoire. Je m'explique. J'ai beaucoup entendu l'interview, bien sûr, de M. Aznavour, entre autres sur votre antenne, et chaque fois qu'on lui parlait d'un morceau, il était capable de le chanter, mais au mot près. C'est-à-dire, on pouvait même lui parler d'un morceau des années 60, ce qui est le cas d'ailleurs dans une émission que vous allez passer dans la nuit sur France Inter, qu'il a chanté qu'une fois sur scène, normalement, on oublie, c'était dans les années 60, je précise. Et il l'a chanté, mais au mot près. Et ça, je l'ai remarqué souvent, mais très souvent, dans les interviews de M. Aznavour. Et moi, ce que j'aimerais savoir, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'artistes interprètes capables de ça. Il y en a, ils ne se souviennent pas de leurs chansons d'il y a 20 ans. D'accord ? Donc, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que M. Aznavour avait une technique particulière, on va dire, pour muscler sa mémoire, ou était-ce inné, tout simplement, quoi.
Merci, Dominique.
Interpellé par ça.
Merci beaucoup, Dominique. Didier Varro, je veux pas casser l'ambiance, mais je soupçonne le prompteur un petit peu.
Mais c'est pas un secret, en fait. Sur la fin de sa carrière, évidemment.
Mais comme tous
les chanteurs.
Ailleurs,
moi, je l'ai vu à Bercy la dernière fois qu'il est passé à Paris. Il rigolait de ça, il le disait. Il disait, j'ai passé l'âge, donc j'ai mon prompteur. Ne vous inquiétez pas, je vais regarder vers le bas et je vais lire les chansons que j'ai oubliées. Ben voilà, il avait 94 ans.
Oui, non, mais puis même bien plus jeune, il y a des tas de chanteurs qui ont un prompteur quand même, et j'ai envie de dire que c'est pas grave,
c'est vrai,
Didier Varro.
C'est pas très grave.
Allez, bonsoir Catherine.
Oui, bonsoir, bonsoir à tous. Alors moi, le souvenir que j'ai d'Aznavour, c'est qu'il a... Il était en moi et je chantais seule dans les cours du lycée. J'étais la seule à chanter Aznavour. Tout le monde chantait les Beatles, les Rolling Stones. Et moi, non, moi je chantais Reste. Il avait une voix chevrotante, une sensibilité. Je me souviens que mon père me disait « Oh, arrête d'imiter la chèvre !» Je me souviens de ça. Et du coup, moi, c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup. Et il y avait une autre chanson. Alors, le chant Reste, qui était magnifique, que je chantais à longueur de journée, que je connaissais par cœur. On me regardait un peu de façon particulière. Et puis, il y a un autre chant que j'ai beaucoup aimé, que j'ai utilisé après, c'est Les Enfants de la Guerre, qu'on entend très rarement, et chaque mot était particulièrement bien choisi. C'était un vrai plaisir. Moi, Aznavour, ça a bercé mon adolescence, et même après. Mais surtout, c'était pas une idole, parce que j'ai jamais eu d'idole, mais voilà, sa voix, sa sensibilité faisait écho chez moi terriblement. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. Il me manquera. Je ne l'ai jamais vu sur scène. Finalement, c'est un grand regret. Voilà ce que je voulais dire.
Merci beaucoup.
J'ai beaucoup aimé, je vous en prie.
Merci pour ce joli témoignage, Catherine. Et en effet, dans ces cas-là, on se dit toujours, enfin mince, il avait 94 ans, il y en a eu des occasions de le voir sur scène. Et je ne l'ai pas vu sur scène, moi non plus, d'ailleurs. C'était quelque chose sur scène, Didier Varro,
Aznavour, ou pas ? Ça dépend des périodes. Moi, je l'ai vu trois fois, et la première fois c'était au Palais des Congrès en 87, je crois, ou 88, et c'était un show absolument stupéfiant. La dernière fois que je l'ai vu, c'était moins impressionnant, mais c'est normal. Moi, je trouve ça presque irréaliste qu'on puisse comme ça affronter la scène à plus de 90 ans comme il voulait le faire, puisqu'il voulait chanter jusqu'à 100 ans, imaginant un concert à la Concorde ou sur les Champs-Élysées. Donc voilà, c'est à la fois très bouleversant et très estimable, et en même temps c'est vrai que il y avait aussi cette force physique qui se déployait dans le corps d'Aznavour. On a peut parler aujourd'hui de la gestuelle de Aznavour, qui a énormément fait parler à l'époque, qui a contribué aussi à sa notoriété, hein, c'est-à-dire une gestuelle avec les mains, comme ça, je vous le fais en même temps, avec les doigts, voilà,
il y a
quelque chose,
la bohème,
quelque chose du théâtre no, pas loin de ce que faisait Gréco aussi sur scène, et puis ce légendaire mouchoir avec avec lequel il a interrogé des générations successives, puisqu'il y avait ce lâcher de mouchoir qui terminait toujours au pied du micro, et quand le noir sale se faisait, le mouchoir avait disparu, on se demandait comment le mouchoir avait disparu.
C'est fou ce suspense absolument terrible. Mathieu Culeron, vous l'avez vu vous ou pas?
Oui, je l'ai vu l'année dernière, c'était la première et la dernière fois que je le voyais sur scène, c'était donc à Bercy, et j'ai vu un homme de 93 ans, ma foi... J'ai jamais vu une personne de 93 ans avec autant d'énergie et voilà, qui était capable de chanter ses chansons. Parfois, ça déraillait un petit peu, mais globalement, sur un show de plus de 2 heures, attention, hein, parce que c'était pas du tout un show de 3 quarts d'heure, voilà, ça tenait la route quand même.
Ouais, rien à voir avec, pardon, hein, je n'ai pas envie de dire du mal, mais rien à voir avec les derniers concerts de Sinatra, par exemple, où on a l'impression d'un aller-retour sur scène, et puis pas grand-chose d'autre non plus, ou des choses comme ça, ou tous ces grands-là qui font payer des places, des sommes absolument astronomiques. C'était toujours des vrais concerts, les concerts.
Des vrais concerts, et puis alors quelque chose qui entre en ligne de compte, il faut le dire quand même, c'est la forme, la ligne. Quand vous avez un chanteur qui ne s'est pas enveloppé, qui reste dans la même silhouette que celle qu'il avait quand il avait 25 ou 35 ans, ça fait beaucoup aussi, hein. Et puis il avait une discipline de fer, voilà, chaque décennie il arrêtait ou de boire ou de fumer pour continuer à être un artiste en pleine possession de ses moyens.
Grazina, bonsoir.
Bonsoir.
Allez-y, Grazina, on vous écoute.
Oui, écoutez, moi, je voulais vous parler d'une chose tout à fait amusante. Je travaille au 56e étage de la Tour Montparnasse, au ciel de Paris. Nous avons un petit bar, une visite où il y a énormément de gens, vu que la vue est magnifique. Et à un moment donné, il y avait des bornes interactives avant que nous fassions des travaux, où il y avait des chansons, des vues de Paris, il fallait deviner des personnages. Et moi, qui est une Polonaise qui est venue à Paris assez tardivement, il y a un des films de Charles Aznavour que j'ai vu en ayant 16 ou 17 ans en Pologne, qui s'appelait Paris au mois d'août. Et alors un jour, j'entends la chanson au ciel de Paris, de Paris au mois d'août. Donc moi qui avais beaucoup de clients au bar, qui venaient prendre un champagne, café, etc. Dès que j'avais fini par servir 50 ou 60 personnes, il y avait un moment de calme, je courais à la borne interactive pour appuyer un bouton pour écouter Paris au mois d'août. Et je revenais ensuite à mon bar pour servir les clients suivants. Et je recommençais. Et je dois dire que j'ai eu larmes aux yeux tout à l'heure en ayant écouté cette chanson sur une autre radio que la vôtre. Et je suis extrêmement émue. Je trouvais que c'était charmant de pouvoir vous en parler de ça.
Et c'était charmant d'écouter votre petite histoire, Grazina. Merci beaucoup. On vous imagine en train de courir à l'autre bout, même mettre la chanson, puis revenir vers vos clients derrière. Merci beaucoup, vraiment, Grazina. Mathieu Culeron, évidemment que tout le monde a un souvenir d'Aznavour à raconter chez soi, dans la cour de l'école, on a entendu à l'instant, là, dans un restaurant.
Il n'aimait pas trop l'école, hein, Charles Aznavour.
Oui, c'est vrai.
Ben non, parce qu'il a été viré de l'école. Enfin, en tout cas, ses parents n'avaient pas assez d'argent pour le laisser à l'école, parce que après le certificat d'études, il fallait payer. Et ses parents avaient un petit restaurant, mais qui ne rapportait pas du tout d'argent. Du coup, il a dû abandonner l'école. Il était très triste aussi de ça. Il y a eu 2 traumatismes presque dans sa vie. Il y a cette question identitaire, c'est-à-dire né par hasard à Paris, puisque ses parents devaient aller aux États-Unis et qu'il naît français, mais par hasard. Et puis cette question de l'éducation, puisqu'il quitte l'école très tôt et très vite. Il aura un complexe par rapport à ça, qu'il luttera, encore une fois, le combattant, il luttera contre ça en écrivant tous ses textes.
C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le côté une espèce de revanche permanente à prendre, en fait, et y compris, effectivement, c'est ce que Mathieu racontait à l'instant, on n'a pas fait d'études, donc du coup, c'est compliqué de se comparer aux autres, on a cette espèce de complexe d'infériorité, on n'est pas, je veux dire, il ne ressemblait pas à Alain Delon, vous le disiez tout à l'heure, Didier Varro aussi, enfin, tout ça cumulé, ça fait beaucoup, il faut avoir une sacrée force de caractère, effectivement, pour passer au-dessus et dire, comme il le disait dans chacune de ses interviews, interview, je savais que je réussirais, moi, de toute façon.
Ouais, savoir aussi aller chercher le succès avec les dents, hein, c'est ce qu'il a fait, notamment pour les gens se demandent comment il a fait pour les États-Unis et le monde entier. Il a été chercher le succès avec les dents. C'est lui qui a d'abord été à l'école, hein, à l'école de la vie, auprès de Piaf, notamment, dans sa tournée américaine et québécoise. Il a pris des leçons et après... Voilà, avec une ambition tenace chevillée au corps, il a été s'imposer lui-même à l'international, ce qui est extrêmement rare pour les chanteurs français.
Ça veut dire l'étoile, effectivement, sur le Walk of Fame, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a, est-ce qu'on peut dire qu'il y en a d'autres des Français qui ont une étoile ou pas? J'avoue que j'en sais rien.
Il n'y en a pas beaucoup. Pas beaucoup, en tout cas.
Sûrement pas beaucoup. Ce que ça veut dire aussi, c'est que dans les concerts aux États-Unis d'Aznavour, il y avait évidemment beaucoup de Français dans la salle, la question se pose pas, mais pas que.
Bah non, oui, voilà. Il y a aussi un public américain qui le suit depuis des décennies.
Didier, vous êtes en train de plier vos papiers, oui, je vois. Oui. Donc vous êtes en train de nous quitter.
Oui.
Et merci beaucoup de votre passage. Merci beaucoup.
Merci infiniment.
Vous revenez
à vous.
Tout à l'heure sur l'antenne d'Inter à 20h.
On se retrouve à partir de 20h pour une spéciale et pendant 2h.
Et jusqu'à 22h. Merci de votre passage, Didier, à tout à l'heure. Jacques, nous attend au 01 45 24 7000. Bonsoir, Jacques.
Oui, bonsoir. Je voudrais faire une toute petite anecdote et surtout remercier mille fois tous les intervenants qui sont tous formidables pour parler de cet homme d'exception.
Allez-y, on vous écoute. Merci, Jacques, allez-y.
La petite anecdote que je voulais raconter, c'est le tambour, puisque j'ai été 27 ans le collaborateur d'Anatole Daumont, qui était le coproducteur du film Le Tambour pour la France. Mm-hmm. Voilà, et comme je connaissais Pierre Roche, je connaissais surtout Pierre Annie, qui était le membre de la famille de Pierre Roche, qui était le premier adaptateur des chansons de Charles.
Et puis Pierre Roche, c'était son duo, avec Aznavour.
J'ai eu le plaisir, justement, de le rencontrer juste avant qu'il démarre ce rôle merveilleux de Sigmund Marcus, le marchand de jouets, dont le petit Oscar va acheter son tambour. Et l'anecdote, vraiment, c'est que après la mort de Sigmund Marcus, le petit dit, voilà, il a emporté avec lui tous les jouets de la terre. Et après, nous avons eu la chance d'avoir Charles, qui est devenu un grand ami d'Anatole Daumont, et j'assistais régulièrement au déjeuner avec lui, et on ne peut pas tarir d'éloges, parce que pour ce petit rôle du tambour qui a beaucoup marqué, et tout le monde se souvient de lui, et vraiment, c'est un homme extraordinaire. Tous les déjeuners que nous avons pu faire avec lui, d'ailleurs il avait arrêté tous ses concerts pour se consacrer uniquement à ce rôle.
Merci.
Et Anatole l'a toujours remercié et nous avons accueilli toujours les bras ouverts et il était vraiment formidable.
Merci pour ce...
Il n'était pas prétentieux le moins du monde et je remercie aussi Jean-Pierre Mocky qui est un grand ami également et qui a parlé merveilleusement de lui.
Merci beaucoup pour ce joli témoignage.
Et vous également de consacrer une émission en son honneur.
Merci beaucoup Jacques et merci pour le joli témoignage. Mathieu Culeron, Le Tambour, Volker Schlöndorff, forcément 1979, grand film, mais effectivement c'est ce que rappelle Jacques, c'est pas un grand rôle, mais on se souvient très bien qu'il est dedans.
Oui, et puis c'est surtout issu adaptation du roman de Günter Grass. Volker Schlöndorff fait cette adaptation où c'est vrai il a un tout petit rôle, mais c'est lui qui donne ce fameux tambour qui est toute la symbolique du film, un rôle qui marquera en effet toute une génération.
Bonsoir Catherine.
Oui, bonsoir Fabien, bonsoir Didier, bonsoir à tous. Moi en fait, comme beaucoup de gens, je connais quelques grands classiques de Charles Aznavour. Et en fait, j'ai découvert grâce à mon papa, il n'y a pas longtemps, cet été, une vieille chanson, une chanson d'amour un peu désabusée, on va dire, qui est pleine de sensualité, en même temps d'humour et teintée d'amertume. Ça s'appelle Trousse chemise et c'est mon papa qui me l'a fait découvrir parce qu'il allait m'emmener à l'île de Ré et voilà, c'est un village qui s'appelle Trousse chemise.
Mais absolument, je connais bien l'île de Ré moi aussi et je connais ce petit endroit. Vous savez quoi, Catherine? Je vous l'offre.
Oh, c'est gentil, merci beaucoup.
Mmh. le petit bois de trousse chemise, quand la mer est grise et qu'on l'est un peu. Dans le petit bois de trousse chemise, on fait des bêtises, souviens-toi, nous deux. On était partis pour trousse chemise, guettés par les vieilles derrière leurs volets. On était partis, la fleur à l'oreille, avec deux bouteilles de vrai muscadet. On s'était baigné à trousse chemise, la plage déserte était à nous deux. On s'était baigné à la découverte, la mer était verte, tu l'étais un peu. On a dans les bois de trousse chemise déjeuné sur l'herbe, mais voilà soudain que là j'ai voulu d'un élan superbe conjuguer le verbe aimer son prochain.
Voilà, on aura évidemment largement l'occasion de le réécouter, Charles Aznavour, et notamment pendant les deux heures à venir, grâce à Didier Varro. Mais merci beaucoup, Catherine, pour ce joli petit bout de témoignage. Tiens, je voudrais vous livrer ce message qui nous vient de franceinter.fr. Je me souviens d'un temps où mon fils de 16 ans, nous dit cet auditeur, métalleux, chevelon, qui sonorise le quartier avec AC/DC, et entre deux chansons, bam, la bohème, re-hard rock, et je me voyais déjà, re-hard rock, et emmenez-moi au bout de la terre. En ce temps-là, c'était en 2018, nous dit cet auditeur, et voici ce que peut faire Charles Aznavour. Mathieu Culeron, vous aussi, je suis sûr que vous êtes capable de ça, en fait. Entre deux AC/DC, bam, la bohème.
Et je sais pas, mais en tout cas, lui, Charles Aznavour, a toujours été très attentif aux courants qui se passaient, aux courants musicaux différents de celui, peut-être, auquel il adhérait dès le départ. Et notamment, les yéyés, ça lui a tout de suite parlé. Il a tout de suite compris qu'il fallait...
Il a écrit pour eux, surtout, il a compris où était le...
Et puis, il a écrit les plus belles chansons. Ah ouais. Retiens la nuit pour Johnny, c'est lui. Ce soir, je serai la plus belle pour aller danser, Vartan, c'est lui. Et donc très souvent, et encore jusqu'à il n'y a pas très longtemps, il s'intéressait aux différents courants, que ce soit le rap, le hip-hop, même la musique électronique. Donc c'est quelqu'un qui avait des oreilles vraiment à tout ce qui se passait autour de lui, et donc le rock évidemment.
Nathalie nous appelle au 01 45 24 7000. Bonsoir Nathalie.
Oui, bonsoir. Moi je voulais juste témoigner de cette transmission dont vous parlez depuis tout à l'heure, parce que j'ai été extrêmement touchée. J'ai deux garçons de 17 et 23 ans qui écoutent bien sûr la musique d'aujourd'hui, enfin des tas de groupes, et qui sont tous les deux férus, amoureux d'Aznavour. Et en fait, c'est mon fils de 17 ans qui m'a envoyé un message en me disant « Maman, maman, Aznavour est mort, Aznavour est mort ». Et ça m'a, voilà, j'ai trouvé ça magnifique, parce que je me dis « Bah oui, c'est ça la transmission, parce que aujourd'hui il a 17 ans ». Et que moi j'en ai 50, et que Aznavour c'est ça, c'est le passage d'une génération à une autre, et que malgré effectivement plein de groupes aujourd'hui qui existent, on voit bien que les adolescents ou les jeunes adultes en tout cas sont encore extrêmement sensibles aux textes et à ce qui se dit dans les textes, et ça je crois que voilà, c'est un vrai bonheur.
Et est-ce que c'est vous en fait qui avez initié votre fils, ou est-ce qu'il y est venu tout seul finalement Aznavour? Parce que on en parlait avec MC Solar tout à l'heure, il y a eu quelques allers-retours chez les Enfoirés, il y a eu des chansons qui ont été reprises. Donc effectivement, les jeunes n'ont pas besoin de leurs parents pour connaître Aznavour, mais là est-ce que c'est vous ou pas?
Alors, je pense que oui, il y a une initiation, au sens où, de toute manière, effectivement, j'écoute ça, beaucoup de musique française et de chanteurs à texte, et que je pense que la mélodie, les textes, etc., ça reste dans l'oreille. Malgré tout, j'allais dire, je pense qu'il y a d'autres chanteurs que j'aime et que j'écoute, pour lesquels ils n'ont pas forcément accroché. Donc, je pense qu'après, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la musicalité, du texte, il y a une rythmique aussi chez Aznavour, qui fait que je pense que c'est aussi peut-être plus facile pour des jeunes de s'accrocher. Après, évidemment, ils aiment effectivement les chanteurs à texte parce qu'ils ont été baignés dedans. Mais voilà, je pense que les deux existent, et qu'il n'a pas eu forcément besoin de moi, et qu'il aurait de toute manière, il est très féru, enfin bon, voilà, comme il me dit, oui, toi, France Inter, les Rama, je ne sais pas quoi.
C'est pas une maladie, ce n'est pas une maladie, dites-lui.
Du coup, il me dit souvent. Il me dit souvent, nous, on a grandi avec France Inter et les Rama tout le temps. Donc voilà, je pense que bien sûr, il y a un bain qui existe. Après, je pense qu'il aurait été cherché, parce que de toute manière, il est vraiment dans la recherche de choses à texte qui leur parlent. Et je pense qu'Aznavour, il a cette capacité à parler
aux jeunes, aux moins jeunes, enfin voilà, à toutes les générations, et quelque chose qui touche tout le monde, quoi.
Et qui n'a jamais. Merci beaucoup pour ce témoignage, Nathalie et Mathieu Culeron. Si la musique sonne, en fait, c'est aussi parce qu'il a jamais vraiment quitté les radios. Charles Aznavour, un moment ou un autre, en ouvrant, on tombe sur un Aznavour à tout moment, finalement.
Oui, c'est
donc il y a une musique qu'on a toujours plus ou moins dans la tête.
Oui, hein. Aujourd'hui, ça fait très clairement partie du patrimoine français. Mais pour revenir à ce swing, vraiment qui est caractéristique de Charles Aznavour, c'est quelqu'un qui a dû écouter beaucoup de jazz, qui a dû vraiment fantasmer sur la carrière de Sinatra, parce qu'il y avait quelque chose de très anglo-saxon finalement dans la musique plus que dans les textes. Mais cette association, c'est-à-dire ce swing de la musique et ses textes assez ouverts sur la modernité, on reviendra peut-être sur la chanson comme ils disent, qui parle de l'homosexualité. À l'époque, voilà, ça se faisait pas trop.
Du tout, même.
Même du tout. C'est quelque chose qui a donc marqué toutes les générations.
Frédéric, bienvenue au téléphone, on vous écoute.
Merci. Oui, je racontais, enfin bon, je vais recommencer.
Ah bah oui, c'est mieux. Ce qu'on n'a pas entendu, nous.
J'avais 11-12 ans, je suis née en Tunisie, j'y ai vécu jusqu'à l'âge de 16 ans. Et à 11-12 ans, j'ai eu mon premier amour et mon premier flirt avec un garçon un peu plus âgé de moi qui était fou d'Aznavour. Et je viens de me souvenir que c'est grâce à lui, en fait, que je me suis à ce point intéressée à Aznavour après, et je suis restée une fan. C'est un bien grand mot, mais vraiment, c'est quelqu'un que j'aime énormément, j'aime beaucoup ses chansons, j'ai reconnu les 13 titres, hein, quand vous avez, au début de l'émission. Et donc après, ce garçon est parti en Sicile, travailler, enfin il s'est marié, j'ai dû avoir l'occasion de le revoir quand j'avais 18 ans. Et puis, depuis évidemment la vie a tourné, j'ai pas oublié ce premier amour, mais bon c'est vraiment très 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 loin.
Arrêtez de vous faire du mal.
J'ai 66 ans. Non, je me fais pas de mal parce que je suis vraiment une grand-mère indigne, comme dirait une de mes cousines.
Mais je trouve ça formidable de s'en souvenir et puis que ce soit toujours associé à ce premier amour quand on a 12 ans. Ce que c'est qu'un premier amour, quand même.
Ah oui, c'était fabuleux. Enfin, je veux dire, le cœur qui vibrait et les chansons d'Aznavour, je les écoutais en boucle. Hein. J'avais quelques 45 tours et maman me disait, enfin c'est pas des chansons pour une enfant de ton âge. Et voilà, donc la vie a passé et ce soir-là, j'ai un souvenir ému pour, il s'appelait Jean-Pierre, pour Jean-Pierre qui vit peut-être encore en Sicile, peut-être pas, allez savoir, peut-être qu'il est plus de ce monde non plus, mais en tout cas j'ai une pensée émue pour lui, pour ce premier amour de jeunesse, pour ce premier flirt et pour la lumière aussi de la Tunisie qui allait avec.
Eh bien Jean-Pierre, si vous nous écoutez, appelez-nous d'urgence, Frédéric vous attend, il y a peut-être quelque chose à renouer. Merci beaucoup pour ce très joli souvenir, Frédéric. C'est marrant la manière dont vous en parliez à l'instant, parce que moi je me souviens de ma mère qui me dit un jour, on était dans un train, je lui faisais écouter mon téléphone, elle me dit mais comment ça se fait que tu connais Charles Aznavour ? Eh bien écoutez, voilà, comme quoi tout le monde le connaît. Merci beaucoup, merci à tous pour vos très jolis témoignages. La soirée Aznavour, elle se poursuit sur France Inter avec Didier Varro qui est là entre 20h et 22h, et puis au-delà aussi. Vous aurez largement l'occasion de le réécouter. Merci beaucoup Mathieu Culeron, merci de votre joli passage dans le téléphone sonne également et portez-vous bien.